Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, on est ensemble jusqu'à 19h. Demain, le président Emmanuel Macron se rend à Alger. Ce sera sa première visite dans le pays en tant que chef d'État. Une visite attendue qui n'en sera pas moins éclair. Dans la presse algérienne et notamment le quotidien El Watan, on attend le président de la République sur la question de la mémoire. Mais en quelques heures à peine, dont une courte entrevue avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika, on peut imaginer que certains dossiers n'aient même pas l'occasion d'être ouverts. Outre cette question non réglée de la mémoire, l'actualité de ces relations franco-algériennes est économique, avec la signature il y a 3 semaines d'un accord qui donnera lieu à l'implantation d'une usine Peugeot en Algérie. Et il y a aussi la question sécuritaire qui anime les deux pays dans la volonté de lutter contre la menace terroriste et notamment celle de Daesh. Mais il y a ce contexte particulier, côté français, un chef d'État qui n'est pas enclin à faire de l'Algérie son seul partenaire dans la région du Maghreb, et côté algérien, un président qui maintient l'opacité sur la question de sa succession et sur sa politique en général. Il y a donc ces incompréhensions et ces blocages à surmonter, mais comment, avec quels acteurs, quelle décision? Et puis surtout, il y a cette question, France, Algérie, qui a le plus besoin de l'autre? C'est la question qu'on se pose ce soir avec 3 invités. Akram Belaïd, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, vous collaborez aussi à Orient 21, Afrique Magazine et au Quotidien d'Oran, où vous tenez la chronique du Blédard qu'on peut lire par ailleurs sur votre blog personnel. Avec vous pour parler de ce sujet, Kader Abderrahim, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et vous avez publié en 2016 un ouvrage intitulé « Daesh, histoire, enjeux et pratiques de l'organisation de l'État islamique », c'est chez Dérol. Et enfin, notre 3e invité, c'est Jean-Louis Levet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste des questions liées au développement technologique et industriel, et à ce titre, vous êtes depuis 2013 haut responsable à la coopération technologique et industrielle franco-algérienne, et vous avez également publié avec Mourad Preur France-Algérie, le grand malentendu, c'était en 2012 aux éditions de l'Archipel. Alors pour commencer, on va évoquer cette visite prévue demain d'Emmanuel Macron à Alger, où il doit rencontrer normalement le président Abdelaziz Bouteflika. Ce ne sera qu'un petit épisode de son programme serré dans la journée de demain, une visite de moins de 24 heures, une visite d'État requalifiée de visite de l'amitié et du travail. Qu'est-ce que la brièveté de cette visite dit de l'état des lieux de la relation franco-algérienne aujourd'hui, Kader Abderrahim?
Ça illustre surtout la difficulté pour la France à avoir des interlocuteurs. On connaît la situation aujourd'hui d'un président de la République algérienne affaibli, qui n'est plus en mesure d'assurer les devoirs de sa charge, malade depuis 2014. Et donc on voit aussi la grande difficulté pour l'Algérie de continuer à porter une voix collective sur la scène internationale. On a vu aussi une Algérie affaiblie sur le plan régional face à son grand et ancien rival qu'est le Maroc, qui lui avance, qui a un vrai projet qu'il est en train de développer, notamment sur l'Afrique, qui est aussi en train de diversifier,
France.
Oui, en lien avec la France, et de diversifier aussi ses partenariats en se rapprochant de la Chine, de la Russie, et face à une Algérie dont on ne voit pas très bien, d'abord, quel est son projet sur le plan régional au niveau du Maghreb, et puis quel est son projet pour les 20, 30 ou 50 ans qui viennent sur la Méditerranée. C'est un pays dont on a besoin, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est la 2e armée du continent, c'est un pays qui doit jouer un rôle pour la stabilité de la région du Maghreb et de la Méditerranée, et dont on a besoin. Donc l'urgence, elle est d'abord institutionnelle, et c'est ce qui montre aussi la raison pour laquelle ce voyage est quand même très court. Hein. Le président Macron va passer 6 heures sur place, même pas 24, même pas 12 heures, et ça illustre aussi la difficulté de continuer à maintenir une relation à flot dans un contexte algérien qui est quand même aujourd'hui très très difficile.
Jean-Louis Levet, qu'est-ce que cette visite officielle, cette première visite officielle très courte, annonce des futures relations franco-algériennes sous le mandat du président Macron ?
Vous savez que le président de la République avait, au cours de la campagne présidentielle, s'était rendu en Algérie, donc il montrait ainsi tout l'intérêt qu'il montrait aux relations entre la France et l'Algérie. Là, il s'y rend donc demain, c'est un symbole aussi important. Je crois que les mots amitié et travail sont pas des mots neutres. D'une certaine façon, je dirais qu'au-delà de la visite d'État, ce qui compte, c'est précisément l'amitié qu'il y a entre nos deux pays, que nous devons continuer à nourrir, et surtout le travail. pour construire ensemble des projets communs, ce que nous faisons déjà depuis quelques années. Et puis surtout, cette visite de notre président se situe également à la veille du prochain comité intergouvernemental de haut niveau qui se tiendra à Paris donc le 7 décembre, après le comité mixte économique franco-algérien du 12 novembre. Donc nous avons là depuis octobre une nouvelle séquence extrêmement importante entre la France et l'Algérie, à nous, aux Algériens, d'y mettre le plus de projets et de perspectives possibles.
Alors, cette visite commencera, selon le programme communiqué, avec une rencontre avec Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, puis une rencontre avec des représentants de la société civile, notamment des jeunes Algériens, nous est-il précisé. Et ce n'est qu'après que le président Macron rencontrera Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qui se joue ici, à Krem Belaïd, dans cette mise en avant, en tout cas sur le programme d'Emmanuel Macron, de cette mise en avant de la société civile ?
C'est une vieille antienne de la diplomatie française, hein. C'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un président de la République, Nicolas Sarkozy, avait fait la même chose et François Hollande avait fait la même chose, lorsqu'on va dans des pays du sud de la Méditerranée, on aime bien rencontrer les représentants de la société civile, dont certains ont été contactés souvent par l'ambassade de France sur place. Ça montre que la France est attentive aussi à la société, qu'elle écoute aussi les voix qui ne sont pas des voix officielles, et que donc on n'est pas simplement dans le côté hermétique entre partenaires politiques. Ça peut aussi vouloir dire que on a un emploi du temps un peu limité, et donc il faut aussi le combler, hein, par manque d'interlocuteurs. Et je dirais aussi, pour dire l'inverse de ce qu'a dit, de ce que vient de dire Kader Abdelrahim, si effectivement côté français on a du mal à avoir des interlocuteurs sur place. Et effectivement, c'est vrai, puisque l'état du président Bouteflika est connu aujourd'hui. On sait qu'il n'est pas apte à rencontrer un chef d'État pendant une longue durée. On est aussi dans l'attente de savoir ce qu'est la politique française à destination du monde arabe. C'est-à-dire qu'on bien malin serait aujourd'hui la personne qui pourrait nous expliquer quelle est la position française sur les grands dossiers qui structurent, qui agitent aujourd'hui l'actualité du monde arabe, que ce soit effectivement la question du Maghreb, la question de la rivalité algéro-marocaine sur la question du Sahara, la question palestinienne, la question... Et donc là aussi, je dis, c'est peut-être aussi une visite à minima, parce que c'est peut-être une visite simplement de prise de température, dans l'attente peut-être d'un discours fondateur qui va venir plus tard et qui précisera ce que Macron a à dire aux Algériens, mais aussi aux Maghrébins et aussi en général, de manière plus générale, aux Arabes.
Il y a une particularité de la diplomatie macronienne au Maghreb qui est observée, c'est que Emmanuel Macron fait très attention à pratiquer une diplomatie égalitaire et équilibrée entre le Maroc et l'Algérie, à équilibrer ses visites entre les deux pays, en tout cas. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la volonté d'Emmanuel Macron dans la construction, disons, de ses relations avec le Maghreb, Kader Abderrahim?
Elle n'est pas équilibrée du tout. Enfin, je veux dire, il suffit juste de regarder la réalité. Il y a 38 entreprises du CAC 40 qui sont installées au Maroc. Il doit y avoir aujourd'hui entre 65 et 70 000 Français qui vivent au Maroc. On sait que la nature de cette relation franco-marocaine est excellente. Les intérêts français au Maroc sont plus importants que jamais. Et de l'autre côté, à l'ouest, de l'autre côté de la frontière, on observe une situation qui est radicalement différente. D'abord parce que l'Algérie a fait des choix à l'indépendance qui sont très différents. Mais pour autant, ça n'obérait pas l'avenir. Et aujourd'hui, on voit la grande difficulté pour un pays aussi, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un pays qui est extrêmement important. On fera rien au Maghreb sans l'Algérie. C'est comme le nez au milieu de la figure. On va pas changer la géographie. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, un accord entre les deux grands pays du Maghreb est absolument nécessaire. Ça, c'est le premier point. Donc, la France le sait mieux que personne. Secondo, la réalité de la relation entre la France et l'Algérie, elle est surtout et avant tout une grande charge émotionnelle et symbolique, hein. La guerre d'Algérie est passée par là. Il y a aujourd'hui 5 à 6 millions de Français issus de l'immigration ou européens, pieds noirs comme on dit, qui sont issus d'Algérie. Donc ça continue à peser, ça compte dans cette relation. Mais pour autant, les intérêts de la France en Algérie sur le plan économique, alors peut-être que je serai démenti par mon voisin, mais sont pas aussi importants que dans le pays voisin. Donc cette idée de l'équilibre me paraît aujourd'hui totalement fausse, mais depuis longtemps, longtemps. Et c'est pas nécessairement la faute de la France, c'est, je pense, aussi l'absence de projet du côté de l'Algérie, de savoir comment elle se détermine, quels intérêts elle veut défendre, aussi bien sur le plan économique et commercial que sur le plan stratégique, comment elle préserve, comment elle protège ses intérêts. C'est un pays immense. Aujourd'hui, c'est le péril à toutes ses frontières. Côté libyen, 1000 km de frontières communes. Un pays totalement instable aujourd'hui qui vit dans une insécurité constante. 1300 km de frontières entre le Niger et le Mali. Là aussi, avec une zone grise au Sahara. Donc, il y a des périls internes, mais il y a aussi des périls externes. Et si l'Algérie ne redéfinit pas quels sont ses intérêts stratégiques pour le demi-siècle qui vient, elle continuera à être un pays qui ne compte pas.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Kader Abderrahim. Avant de continuer sur ce volet économique, j'aimerais vous poser une question à vous trois. C'est que, effectivement, il y a eu le candidat Emmanuel Macron qui est allé en Algérie et qui a parlé de la colonisation française comme étant un crime contre l'humanité qui nécessite des excuses. Il n'en parle plus trop. Demain, une visite est claire. D'autre part, il y a ces relations avec le Maroc qui ont tendance à fâcher l'Algérie. Est-ce que, en fait, déjà, à force de vouloir fâcher personne en pratiquant cette diplomatie dite de l'équilibre, on ne va pas finir par fâcher en fait tout le monde. Est-ce que le président de la République aujourd'hui ne fait pas tout pour tendre ses relations avec l'Algérie, Jean-Louis Levé?
Vous avez trois grands pays dans cette partie du monde, ce Maghreb, qui est essentiel pour nous. Je pense qu'une grande partie de l'avenir de la France passe par le Maghreb. En termes géopolitiques, nous savons très bien que le Maghreb est une zone d'influence pour la France qui est extrêmement importante. Donc une grande partie de notre avenir passe par nos relations avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et évidemment avec l'Algérie. Nous sommes face à face et nous avons vocation à être côte à côte. Il ne faut pas oublier que le peuple algérien, pendant 10-15 ans, a eu à affronter un djihadisme d'une violence et d'une brutalité absolument inouïe, que nous découvrons sur la période récente. Eux l'ont vécu pendant 15 ans, ils l'ont combattu, la société a été meurtrie au plus profond d'elle-même. Aujourd'hui, quand je suis aux quatre coins de l'Algérie, ce sont des choses dont les gens ne parlent pas, parce que les Algériens ont une grande pudeur, mais on sent que ça les a touchés sur trois générations. L'Algérie, depuis quelques années maintenant, cherche à se réouvrir sur l'extérieur, cherche à réapprendre à s'ouvrir sur l'extérieur. Si je donne deux, trois chiffres que vous évoquez à l'instant, si je prends le stock d'investissements directs étrangers en Algérie, c'est-à-dire l'ensemble des outils productifs, des usines qui sont construites par des capitaux étrangers. En Algérie, ce montant des investissements directs étrangers implantés en Algérie n'est que de 26 milliards d'euros. En Tunisie, où la population est quatre fois moins, c'est 35 milliards d'euros. Au Maroc, effectivement, c'est 50 milliards d'euros, parce que le Maroc, depuis plusieurs décennies, a fait de l'investissement étranger un outil de développement. L'Égypte, c'est 150 milliards d'euros. La Turquie, c'est plus de 200 milliards d'euros.
Là, on évoque des règles très strictes par rapport aux investisseurs étrangers en Algérie.
Voilà, et donc on voit bien que l'enjeu de l'Algérie aujourd'hui, sur un plan économique, encore une fois, c'est de sortir de cette logique mono-activité avec le gaz et le pétrole, de devenir certes un acteur énergétique clé, ça c'est très important, avec notamment les énergies renouvelables, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi la capacité à faire des investissements étrangers, et notamment français, un levier considérable de formation de leur jeunesse, parce que ça c'est l'enjeu numéro un en Algérie, et puis ensuite de développer des activités, et surtout une culture et une pratique entrepreneuriale. Et je vois sur le terrain que la plupart des territoires, des villes algériennes, de plus en plus se prennent en main, avec le Wali, qui est l'équivalent de notre préfet, qui sont aujourd'hui davantage des préfets développeurs, avec les clubs d'entreprise, avec les universités. Je reviens de Tlemcen, où j'ai été ce week-end, avec le recteur de l'université, avec le Wadi, avec les clubs d'entreprise. Là, on est en train de mettre en place des projets. Donc, une grande partie de l'avenir de l'Algérie et des relations entre la France et l'Algérie se font aujourd'hui sur l'échiquier territorial avec les acteurs de terrain. C'est ça aussi qui est très important.
Vous parlez d'innovation, Jean-Louis Levé, et de projets qui se mettent en place. On peut aussi évoquer la personne d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Est-ce qu'il incarne cette incapacité de renouvellement politique? Est-ce que aujourd'hui le président algérien est un poids et un problème dans la relation franco-algérienne, Akram Belaïd?
Un problème, non. En réalité, non. Non, parce que d'abord il y a un affichage derrière la période. Alors effectivement, pour l'Algérie, c'est un souci, parce que lorsque vous avez le leader suprême qui est dans cet état-là, ça pose un problème d'inertie, de renouvellement, de dynamique. Mais en même temps, il faut tout de même savoir que le renouvellement générationnel, il s'est fait. en Algérie. Vous avez toute une catégorie d'âge aujourd'hui qui est aux manettes. Vous-même, lorsque vous êtes en Algérie, que vous circulez en Algérie, vous voyez les walis, donc les préfets, les directeurs de ministères. Vous avez toute une nouvelle génération qui aujourd'hui a pris les commandes. Donc on a souvent tendance à s'arrêter un peu à la situation au sommet de l'État. Ça attise les rumeurs et effectivement, c'est important de savoir qui va lui succéder, comment va se faire la succession, est-ce que il va briguer un cinquième mandat ou pas. Ça, c'est, et nous, les journalistes, on a tendance à se focaliser là-dessus. Mais l'Algérie, c'est aussi un pays qui a changé. Alors, je dis pas qu'il a changé en bien ou en mal. Je dis simplement qu'il a changé et que vous avez toute une génération aujourd'hui de quinquas, voire de sexagénaires, qui sont aux manettes et qui ont pris petit à petit, le pouvoir. Ça vaut pour le tissu économique, mais ça vaut aussi dans les administrations publiques. Donc, effectivement, lorsqu'on a besoin d'un débat et d'un dialogue à haut niveau entre les deux pays, bien sûr que oui, ça pose un problème parce que l'interlocuteur n'est pas là et que rien ne se décide sans lui.
Et que le flou est maintenu sur le futur politique
oui,
de l'Algérie.
Mais en même temps, vous avez, et c'est cela qui est tout de même intéressant, vous avez aussi des milliers de liens entremêlés, des va-et-vient entre le pays. Il suffit d'aller à Orly et de regarder le nombre de vols qui relient l'Algérie et la France pour comprendre. Vous avez des norias, ce qu'on appelait les norias, c'est-à-dire des gens qui vont et qui viennent. Vous avez, j'aime pas trop le mot, mais vous avez un stock de binationaux qui est important et ce n'est pas par hasard si le président Macron a fait cette déclaration l'année dernière, en février dernier, sur la colonisation. Il sait très bien qu'il y a des binationaux qui vivent dans les deux pays et qui votent. Et qui votent à la fois pour l'élection présidentielle algérienne, mais qui votent aussi pour l'élection présidentielle française. Donc ça, c'est aussi une réalité qui est souvent au-delà des difficultés profondes et réelles de l'Algérie. C'est une réalité qui est souvent niée, qui est souvent occultée. Et par conséquent, on imagine ce que serait le dynamisme des relations bilatérales si d'aventure demain la situation politique algérienne venait à être assainie, en tout cas éclaircie. C'est un pays qui ne demande qu'à se développer. Il manque, le point de départ. Voilà.
Et le point de départ, alors, Kader Abderrahim, quel sera-t-il ?
Oui, peut-être que le point de départ, c'est de revenir à votre question. Et je ne suis pas certain que la question de l'âge soit une question importante. Je crois que c'est le renouvellement
des pratiques. Alors, en l'occurrence, pas la question de l'âge, mais voilà, le renouvellement de la politique.
C'est le renouvellement
de la politique,
des pratiques. Il y a un système. Avec des pratiques qui, depuis l'indépendance, perdurent. Donc, c'est pas le renouvellement des hommes ou des femmes à l'intérieur de systèmes qui ont modifié les pratiques en cours en Algérie, que ce soit dans les administrations, dans les grandes institutions que sont l'armée, la police, la gendarmerie, les partis politiques, dans les deux chambres du Parlement, au gouvernement, etc. On voit bien qu'il y a cette pesanteur et en réalité, il n'y a absolument aucune volonté de la part de ceux qui ont un pouvoir réel ou en tout cas qui peuvent peser sur les choix, les orientations, de vouloir modifier ces comportements et changer les pratiques. Ce serait, je pense, salutaire collectivement pour l'Algérie et ça enverrait un message très positif aux partenaires de l'Algérie. Je voudrais quand même rappeler, bon évidemment ça nous concerne très directement, mais aujourd'hui le premier partenaire économique de l'Algérie c'est la Chine. Et c'est pas neutre, c'est pas innocent.
Qui est passé
évidemment,
devant la France.
Il y a moins d'exigences côté chinois sur un certain nombre de sujets qu'on ne peut en avoir quand on est un partenaire européen. Donc là, je crois que la question de l'âge me paraît totalement secondaire par rapport à celle du renouvellement
exactement
à l'intérieur du système politique algérien.
Jean-Louis Levé, sur cette question.
Oui, alors il y a deux questions. Sur le renouvellement, moi ce qui m'intéresse surtout dans ma mission, c'est le renouvellement au niveau du terrain. Et effectivement, sur le terrain, on voit de plus en plus de chefs d'entreprise. Nous sous-estimons ou nous mésestimons probablement en France, du côté des entreprises, et j'essaye de passer aussi beaucoup de temps dans mes déplacements en France, pour voir que nous avons en Algérie, non pas un tissu productif, c'est excessif, mais aujourd'hui vous avez plusieurs milliers d'entreprises familiales qui font entre 10 et 3000 personnes, avec quelques groupes qui en font davantage. Et aujourd'hui, ces petites et moyennes entreprises qui sont de nature familiale, qui ont été créées dans les années 70, et puis de plus en plus aujourd'hui dans les années 2000, elles sont essentiellement en lien avec la demande finale. Donc vous allez avoir beaucoup d'entreprises dans le domaine agricole, dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques, dans l'électroménager, alors que l'industrie dite publique, qui était des entreprises nationalisées dans les années 70, sont plutôt, à l'époque, un peu sur le modèle soviétique, dans la sidérurgie, dans l'acier, dans la grande mécanique. Donc plutôt en lien avec les commandes d'État. Et aujourd'hui, le pouvoir économique privé, entre guillemets, se développe de plus en plus. Je vois au quotidien, je suis en relation avec les deux, pour être concret, si vous voulez, avec les deux principaux clubs d'entreprises qu'il y a en Algérie, parce qu'il n'y a pas de branche, si vous voulez, il n'y a pas d'organisation de branche. Vous avez d'une part le forum des chefs d'entreprise qui regroupe de nombreuses entreprises, puis vous avez d'autre part le CEMI, le club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja qui est à Blida. À eux deux, ils représentent près de 3000 entreprises. Et quand je les rencontre, quand je suis sur le terrain en permanence, eh bien je vois une génération de chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui 70-75 ans, qui commencent à passer le témoin progressivement à leurs fils, leurs petits-fils, leurs petites-filles. C'est très net, qui sont souvent formés d'ailleurs dans les meilleures écoles françaises et qui reprennent en main leur entreprise. Et ceux-là sont demandeurs de travailler avec nous. C'est-à-dire qu'il y a une demande de France au niveau des entreprises, des universités, qui est extrêmement forte, que nous sous-estimons souvent beaucoup en France. Je me souviens, la première fois que j'ai fait ma première mission en juillet 2013, quand j'ai été nommé en juin, j'ai commencé par l'est de l'Algérie, dans la Borj Boreridge, à Sétif, à Constantine, à Guelma, et puis je suis revenu par Béjaïa. La plupart des chefs d'entreprise que je rencontrais me disaient « Mais monsieur Levé, vous êtes le premier représentant du gouvernement français qu'on voit depuis de nombreuses années. Vous venez nous voir au fin fond de l'Algérie, complètement à l'est. Vous passez une journée, une soirée entière avec nous, vous restez deux jours, trois jours. » Donc il y avait à la fois un étonnement positif et en même temps une énorme demande de travailler avec nous. Et je crois que c'est cette attente-là que nous devons arriver à répondre en dessous de l'échiquier politique.
Akram Belaïd, sur cette question.
Moi, je crois que c'est pas un hasard si la Chine aujourd'hui est le premier partenaire. D'abord parce qu'effectivement, c'est un partenaire moins regardant sur certaines choses, mais c'est aussi quelqu'un qui a le souci du réel. Le grand problème de beaucoup d'entreprises françaises, c'est d'avoir considéré que, et ça vaut aussi pour le Maroc et la Tunisie, c'est de considérer que le Maghreb est un marché captif et que l'histoire fait que, ma foi, ça restera un marché captif ad vitam aeternam.
C'est-à-dire
que puisque la France a été la puissance coloniale, qu'il y a des liens, qu'il y a le lien linguistique, qu'on a des relations d'État à État, qu'on a des relations entre classes politiques, etc., on va rester sur place pour toujours. Or, la mondialisation, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Les gens voyagent, vous avez des barrières qui sont tombées, vous avez des règles commerciales des barrières commerciales qui ont été levées. Donc du coup, ça fait que effectivement, il y a une concurrence. Alors vous avez parlé de la Chine, on peut parler aussi de la concurrence turque, la Russie, mais on peut parler aussi de la Turquie qui est aussi un rival, un concurrent assez redoutable, y compris dans les deux autres pays. Mais le vrai problème par rapport à la situation politique, c'est l'incapacité jusqu'à présent des autorités algériennes, et c'est une affaire qui dure depuis plusieurs décennies, au-delà des pratiques du système et du verrouillage politique qui est appliqué en Algérie, c'est la définition d'un projet économique. On parle beaucoup de diversification, on parle beaucoup de diversification économique, mais on est bien en mal aujourd'hui de définir ce qu'est la politique économique algérienne aujourd'hui. Est-ce que c'est un pays qui est toujours socialiste ou pas? Est-ce que c'est un pays qui a admis de manière définitive son entrée dans l'économie de marché? Et on voit que c'est très difficile.
Et vous avez une réponse à cette question?
Non, c'est très difficile parce que on a officiellement la recherche d'un modèle économique d'économie de marché sociale. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on voit bien que dans certaines pratiques, il y a des réticences parce que le poids du passé, l'État a été centralisateur. Vous parliez de modèle soviétique, on peut parler des fameuses industries industrialisantes. C'est très difficile de se remettre en cause de ce côté-là. Et puis, parce qu'aussi, ça permet de garder la main sur le système.
Vous parlez, Akram Belaïd, d'une méconnaissance française du marché algérien. Vous, Jean-Louis Levé, vous pointez une méconnaissance française du tissu productif et industriel algérien.
Oui, vous savez, on est entre nous, là, on va en parler très librement. Quand je suis arrivé en Algérie, j'ai posé une question très simple à beaucoup d'acteurs. Quelles sont les 200 ou 300 entreprises de taille intermédiaire qu'il faudrait que je rencontre en Algérie? J'attends toujours la réponse. Donc évidemment, je l'ai fait moi-même, bien sûr avec mes collègues de l'ambassade, avec Business France, avec notre chambre de commerce algéro-française qui est en Algérie. Mais là, on a un véritable déficit qu'il faut combler. Sur la question de la Chine, je voudrais juste préciser une chose. Quand on dit que la Chine est le premier partenaire de l'Algérie, il faut savoir de quoi on parle. On parle de la présence commerciale, c'est-à-dire en part de marché, en vente de produits en Algérie, la Chine est devant la France. Par contre, la France est le premier investisseur. Or, très loin de ce qu'il faudrait. Or, l'enjeu aujourd'hui en Algérie, c'est précisément de passer d'une logique import-export, d'une logique purement commerciale, à une logique de coopération. La Chine est essentiellement présente aujourd'hui sur les grandes infrastructures parce qu'effectivement, à coût moindre et en allant beaucoup plus vite, elle a gagné beaucoup d'appels d'offres pour faire des autoroutes, des tunnels, etc. Des logements, dont d'ailleurs parfois les Algériens doutent un peu de la qualité. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est via la Chine, vous avez, quand vous parlez avec, quand vous lisez les statistiques des douanes algériennes aujourd'hui, elles vous disent quoi ? Elles vous disent que 30% des produits vendus en Algérie sont des produits contrefaits. Et que 80% de ces 30% sont des produits d'origine chinoise. Donc il y a aussi en Algérie, comme dans plusieurs pays d'Afrique, un peu de distance par rapport à l'économie chinoise, qui de toute façon va évoluer et va monter en qualité. Et je crois que notre enjeu à nous en France, c'est précisément d'accélérer cette transition d'un modèle relationnel fondé uniquement sur le business à un modèle relationnel fondé sur la coopération.
France Culture, du grain à moudre, Émilie Chaudet.
France-Algérie, qui a le plus besoin de l'autre? C'est la question qu'on se pose ce soir avec nos trois invités, le journaliste Akram Belaïd, avec le chercheur Kader Abderrahim et l'économiste Jean-Louis Levé. Alors, vous avez tous évoqué autour de la table la présence de la Chine sur le marché algérien. On peut aussi reciter la Russie. Le Premier ministre Medvedev qui a rendu visite au président Bouteflika le 10 octobre dernier. Et il y a eu plusieurs accords de signés, 5 accords, notamment concernant les secteurs de la justice, de la santé, de la formation professionnelle, des hydrocarbures et de l'énergie nucléaire civile, plein de domaines sur lesquels la France s'était positionnée récemment. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, au vu de ce contexte, a besoin de la France ? Kader Abderrahim.
Oui, enfin, c'était notre discussion du point de départ. Elle a besoin de la France, oui, d'abord pour se moderniser, parce que c'est un partenaire traditionnel, c'est un partenaire familier. Donc c'est vrai qu'on est dans des rapports et des univers mentaux qui sont quand même extrêmement proches. La relation avec la Russie, elle est aussi très très ancienne, du temps de l'Union soviétique. Elle s'est bâtie aussi sur des questions essentiellement dans un contexte d'abord de guerre froide, avec les positions connues de l'Algérie de l'époque, un des pays phares du tiers-monde, etc. Donc aujourd'hui... Quand même, c'est vrai qu'il y a de nombreux acteurs qui ont émergé et qui comptent sur la scène internationale. On vient de parler de la Chine, la Russie,
les États-Unis,
oui, l'Allemagne, et puis non, mais ne serait-ce que sur le continent, des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, comme la Turquie, tout près, c'est des pays qui comptent. Je veux dire, tous ces nouveaux acteurs aujourd'hui sur la scène internationale compte, et je crois que Bouteflika, qui est, il faut quand même le rappeler, d'abord un diplomate très chevronné, a aussi la volonté de diversifier ses partenariats et de peut-être aussi la volonté de sortir de ce tête-à-tête et des psychodrames récurrents dans la relation bilatérale entre l'Algérie et la France. Ce serait sain, mais ça suppose d'abord de bâtir un projet sur des valeurs communes, partagé des deux côtés de la Méditerranée, mais partagé d'abord et avant tout en Algérie. Or, pour le moment, on ne voit pas cela. Et c'est vrai ce que disait Akram tout à l'heure, côté français, on a tous appris il y a très longtemps que les intérêts stratégiques de la France, c'était d'abord l'Europe, puis le Maghreb. Et pour ce qui concerne le Maghreb, c'est vrai qu'on est en peine aujourd'hui de définir une véritable politique, un véritable projet stratégique de la France et on attend peut-être le discours fondateur qui viendrait renouveler cette tradition française.
Autour de quel thème peut se restructurer, en tout cas se consolider la relation franco-algérienne aujourd'hui à Akram Belaïd ?
Il y a plusieurs thèmes. D'abord, nous vivons une période très difficile sur le plan régional. On a beaucoup de conflits, on a cette affaire malheureuse de la Libye, on a des conflits qui menacent aussi au Proche-Orient, on a la question palestinienne encore une fois qui va revenir sur le devant de la scène. Il y a eu une époque où, malgré toutes les vicissitudes, il y avait un vrai duo franco-algérien en matière diplomatique, et notamment dans le monde arabe. On se demandait tout à l'heure de qui a besoin de l'autre. La France, à un moment donné, a beaucoup été, entre guillemets, aidée par l'Algérie dans diverses tractations au Proche-Orient et dans le monde arabe. Ça pourrait marcher Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les voisins maghrébins. On peut associer le Maroc et la Tunisie aussi. Mais ça, la diplomatie au service de la paix, voilà quelque chose qui pourrait être important. La deuxième chose, ce serait aussi de reconnaître que la volonté d'indifférence, en tout cas de différenciation qu'on a affichée depuis l'indépendance de l'Algérie, ma foi, le réel montre que les peuples continuent à avoir un destin croisé et mêlé. Et ça, c'est une réalité à laquelle manque, je dirais, une espèce de validation politique, d'une manière ou d'une autre. Alors, pendant très longtemps, les Algériens demandaient à la France un traité d'amitié qui, quelque part, solderait le passé, lequel traité...
Qui a eu lieu en 2012 ?
Oui,
avec
mais
la
enfin,
visite de François Hollande.
Non, mais c'est un traité, c'est de manière un peu plus solennelle, etc. Donc ça a été un peu mis de côté parce qu'il y a eu toutes ces questions sur la mémoire, sur le rôle positif, entre guillemets, de la colonisation. Donc là aussi, je dirais qu'il y aurait besoin d'un projet commun, mais qui serait porté politiquement par les deux pays. Ça ne peut pas être le cas aujourd'hui parce que la présidence algérienne ne peut pas le porter, mais demain, peut-être, ça permettrait, si vous voulez, d'asseoir et d'assainir les relations qui sont régulièrement polluées par des polémiques, notamment mémorielles.
En termes de projet commun, en tout cas, il y a une question commune autour de la sécurité. Vous avez soulevé ce point, Akram Belaïd, et à juste titre. Chaque année, il y a une commission mixte de coopération dans le domaine de la défense qui se tient alternativement entre la France et l'Algérie avec des échanges d'expertise et de savoir-faire. Et au centre de ces échanges sécuritaires, depuis plusieurs années, il y a donc la menace terroriste. Qu'est-ce que la présence de cette menace et de Daesh en particulier dans la région a fait bouger dans ces échanges entre la France et l'Algérie, Kader Abderrahim?
Là aussi, si j'osais une métaphore pour résumer un peu ce que je voudrais dire, la France est une maîtresse très convoitée, à la fois par l'Algérie et par le Maroc. Lorsque l'Algérie est impliquée dans un partenariat sur la question de la coopération, sur la question de la sécurité, l'Algérie demande à ce que le Maroc n'y soit pas, et inversement parfois. Donc ça rend effectivement cette relation très compliquée, alors que tout le monde a besoin de tout le monde pour le coup, sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que l'Algérie, de ce point de vue-là, est un partenaire, il a acquis une expérience dans la lutte contre le terrorisme, il est lui-même encore menacé, concerné en interne, même si évidemment ça n'a rien à voir avec ce que le pays a vécu dans les années 90, enfin jusqu'à la fin des années 90, mais il doit aussi, je pense, être responsable de ce point de vue-là. Et c'est vrai que au milieu des années 2010, l'Algérie a été un État responsable en soutenant la Tunisie, qui était lui aussi très déstabilisée par les situations en Libye. Mais ce que l'on a appelé le G5, c'est-à-dire le groupe des pays des cinq pays du Sahel, est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien parce qu'on n'a pas voulu associer le Maroc, parce que l'Algérie a fait un blocage là-dessus. Donc on revient toujours sur cette grande difficulté et la France se trouve un peu parfois tiraillée et au milieu. Alors que de l'autre côté de la frontière, la coopération franco-marocaine, elle fonctionne extrêmement bien. D'abord, elle est très ancienne, les gens se connaissent très bien, ils se parlent très souvent, alors que côté franco-algérien, il y a je ne vais pas dire une méfiance, mais enfin, on observe toujours les informations ou ce que l'on peut dire qui vient du côté algérien avec une certaine prudence, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque ça vient du Maroc. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cela à construire, voire peut-être à reconstruire, compte tenu des menaces nouvelles qui se font au jour aujourd'hui. Il n'y a pas que le terrorisme, il y a aussi des véritables mafias qui se sont organisées aujourd'hui et qui concernent, alors pour le coup, tous les pays du Maghreb. Ça va de l'Atlantique jusqu'à l'Égypte, jusqu'aux confins de la Libye. Et on le voit aujourd'hui, notamment sur la crise et la question des migrants qui profitent ces mafias profitent de l'instabilité de ces États, que ce soit le Mali, la Libye, la Tunisie, en partie de l'Algérie, dans le Sahara, qui est devenu une véritable zone grise.
Et sur ce plan sécuritaire, comment la relation franco-algérienne peut évoluer ?
Elle ne peut de toute manière qu'évoluer parce que je crois que sur cette question-là, sur ce dossier-là, au moins, tout le monde sait qu'il a intérêt à coopérer, même à minima.
Jean-Louis Levé, on parle beaucoup de ce que devrait faire l'Algérie, notamment en termes d'économie, mais aussi sur le plan sécuritaire, pour consolider sa relation avec la France. Dans un article paru dans l'Express en avril 2016, on lisait, ça c'est pour le plan économique, qu'il fallait que l'Algérie diversifie son économie parce que 1% de ses recettes provenaient du secteur privé, qu'elle assouplisse les règles pour ses investisseurs étrangers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du côté de la France ?
D'abord, concrètement, peut-être déjà dire ce qui est en train de se faire. Depuis la signature de la déclaration entre les deux présidents en décembre 2012, nous avons cherché à structurer la coopération entre nos deux pays autour de trois priorités, je dirais quatre priorités très fortes. Et en partant toujours des attentes, des besoins, des projets, des compétences de nos amis algériens. Première priorité qui est fondamentale, c'est la formation. Comment monter en qualité la formation initiale, continue, professionnelle, en lien précisément avec la diversification de l'économie algérienne. Dans cette priorité, par exemple, nous avons initié plusieurs projets, on peut en citer. Le groupe Schneider, par exemple, a créé un centre d'excellence à Alger sur les questions d'efficience énergétique. Et au CIHN, dans deux jours, nous allons développer cette question.
Dans laquelle des talents français peuvent apprendre
Des talents français peuvent apprendre et des talents également algériens. L'intérêt, justement, c'est de pouvoir mixer les deux. Nous avons aussi, avec le club des industriels de la Métidja, créé un centre à Blida de transformation de la matière plastique avec des opérateurs d'Oyonnax, de la région d'Oyonnax, avec le lycée d'Oyonnax, le centre européen, l'entreprise Billon. On essaye là aussi de créer également une école des métiers de l'industrie avec Mineparitech, une école d'économie industrielle avec l'école d'économie de Toulouse. La deuxième priorité, c'est comment venir en appui aux PME sur un plan technique et technologique. Il y a deux exemples. Il y a l'exemple d'abord de la normalisation. En Algérie, l'économie informelle est très présente, c'est 30 à 40% du PIB. Donc c'est un enjeu très important, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui circulent dans l'économie informelle. Comment développer l'économie formelle? Donc il faut mettre aux normes ces entreprises algériennes qui ont le souci de répondre aux exigences du consommateur algérien et en même temps, demain, au marché mondial.
Et concrètement, ça se traduit comment?
Concrètement, il y a un accord entre l'AFNOR, l'Association française de la normalisation, et l'IANOR. Comment aider ces entreprises à se mettre aux normes? Il y a aussi la question de la propriété intellectuelle. Vous avez des entreprises en Algérie qui ont une marque, et cette marque, il faut savoir la défendre sur le marché algérien, qui est effectivement de plus en plus concurrentiel, mais il faut aussi savoir la promouvoir à l'extérieur. Et puis vous avez aussi la troisième priorité, tout ce qui est partenariat productif. Quand nous avons le groupe Avril qui se développe et qui crée une usine avec son partenaire Djadi Ablida, on a une usine qui va se créer. Peugeot va créer une autre usine. Et derrière, il y aura des équipes entiers français, des sous-traitants français, avec des opérateurs algériens qui monteront en qualité. Et puis la dernière priorité qui est très importante, c'est comment développer des liens entre universités, entreprises et territoires. C'est fondamental. Tout se joue à ce niveau-là.
Là, on en est au stade de la question.
Non, mais pas du tout. On a un groupe de travail qui fonctionne déjà depuis un an. On a plusieurs actions structurantes qui sont en train de se mettre en place. À Tlemcen, nous sommes en train, avec le recteur de l'université de Tlemcen et Rennes 1, de travailler sur la création de pôles numériques appliqués à la santé. Il y a différents projets à Béjaïa avec l'université, à Ouargla ou à Boumerdès. Donc là, nous sommes vraiment sur des cas concrets. Nous avons plus d'une cinquantaine de cas aujourd'hui qui se mettent en œuvre. Et il faut aussi parler de ce qui est en train de se faire, parce qu'on ne peut agir dans le futur qu'en fonction de ce que l'on fait déjà au présent.
Une dernière question pour vous, Akram Belaïd. Dans un article que vous avez écrit en 2012 à l'occasion de la visite de François Hollande en Algérie, vous avez dit « Quoi qu'il arrive, dans 5 ans, la France aura plus que jamais besoin de l'Algérie ». Et vous concluez par ces mots « La France a bel et bien besoin de l'Algérie parce que quelque chose se passe entre les deux pays. Des hommes et des femmes vont et viennent et construisent leur vie à cheval entre les deux pays et cela mériterait un cadre plus formel. » Alors comment il se traduirait ce cadre et est-ce que c'est ce cadre qui manque aujourd'hui à la relation franco-algérienne?
Vous savez, j'ai été très choqué par les images qui ont été très diffusées dans la presse algérienne, qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux, de ces étudiants ou de ces futurs étudiants algériens faisant la queue devant le centre culturel français pour pouvoir s'inscrire et venir étudier en France dans un désordre pas possible, alors qu'il fut un temps où les rendez-vous étaient donnés individuellement, etc. Donc si on revient à l'humain, faire en sorte que ces déplacements, que les relations humaines ne soient plus entachées par le sceau parfois de l'humiliation. Je pense notamment à la question des visas, sur laquelle il y a encore des progrès à faire, la libre circulation des individus. Et là, on a tendance trop souvent à éluder cette question pour des raisons parfois politiques. On sait très bien quelle est l'ambiance aujourd'hui générale en Europe et en France. Mais tout de même, si on veut de bonnes relations entre l'Algérie et la France, les Algériens mériteraient, eux aussi, d'être un peu mieux considérés qu'ils ne le sont encore aujourd'hui par les autorités consulaires françaises en Algérie.
Kader Abderrahim, c'est aussi votre avis? Il y a un problème de considération aujourd'hui?
Je vais donner juste un chiffre. Quand on est détenteur d'un passeport de l'Union européenne, on peut se rendre sans aucune difficulté dans environ 155 pays. Sans aucune difficulté. Je rappelle qu'il y en a 194 qui sont aujourd'hui membres des Nations Unies. Quand on a un passeport algérien, au mieux, c'est 47 pays.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir réfléchi à cette question. France-Algérie, qui a le plus besoin de l'autre? On va, Akram Belaïd, on peut retrouver vos chroniques et articles sur votre blog personnel, akram-belaïd.blogspot.fr. On peut également se procurer votre dernier livre paru en 2013 chez Carnet Nord. Le livre s'appelle Retours en Algérie. Kader Abderrahim, votre livre à vous, Daesh, histoire, enjeux et pratiques de l'organisation État islamique, est publié aux éditions Erol. Et Jean-Louis Levé, votre livre France-Algérie, le grand malentendu, coécrit avec Mourad Preur, est disponible aux éditions de l'Archipel. On peut réécouter et podcaster cette émission sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo et Eva Pellerin, Véronique Villa à la réalisation et à la prise de son ce soir, c'était Yanis Djoudad. Demain, c'est Hervé Gardette qui sera de retour à ce micro avec cette question. Pas de cash, pas d'investigation. Mais en attendant, il est 19h. Rebonsoir, Arnaud Laporte.